Ok, Mauditi, c'est libéré des... Oh, ben merde, j'ai oublié l'indicatif.
L'avion décolle à 6 heures. Toto ira avec Eva à Rio. Toto ira avec Eva à Rio. Léonard, surréputé, révélé, tu péris à Noël. Léonard, surréputé, révéré, tu péris à Noël. C'est une ode funèbre, et puis d'ailleurs on dirait du Bossuet.
Et voilà, comme à l'accoutumée, ouverture de dessous de scène par quelques palindromes de Gérard Durand, qui était notre ami et gérant du rare de son état. Radio Libertaire 89,4 MHz, sous de scène magazine de créatures radiophoniques. Je ne sais pas, est-ce que je me suis trompé de jour, est-ce que je me suis trompé d'heure? Normalement, il doit y avoir dans le studio tout le reste de l'équipe, avec un invité ou une invitée proposée par Laurent et nos 10 heures de texte habituels. Bon, on va les attendre tout bêtement. En attendant, quelques petits... Je me souviens que Vaquette m'avait dit « L'avantage du passage à l'euro et de sa division par 6,57, c'est qu'il y aura moins de millionnaires. » Il avait ajouté « Des milliardaires, il y en aura toujours autant. » Je me souviens que chaque fois que je joue aux cartes avec mes enfants, je me souviens de l'odeur de la maison de mes parents. Le vieux jeu de cartes récupéré dans un tiroir de leur maison a gardé l'odeur, mélange d'humidité, de pain qui cuit, de pommes stockées au grenier, de terre après la pluie, des chats. Fort heureusement, le jeu de cartes n'a pas gardé l'odeur médicamenteuse et javelisée de la table de chevet de l'hôpital, où je l'avais redéposé quelques mois pour y jouer quand j'allais rendre visite à ma mère. Je me souviens que Jeannette ne doit pas pleurer, même si on la pendouilla avec Pierre, son amoureux dans la chanson. Je me souviens de l'expression « je récapépète depuis le début et même depuis le bédu ». Je me souviens qu'Antonio m'avait dit que, dans le village de son enfance, noyé sous les eaux suite à la construction d'un barrage, la fontaine sur la place du village continuait à sourdre inlassablement par son bec en plomb par 20 mètres de fond. Je me souviens que ce soir, un photon, venu de l'espace lointain, parti quand mon père est né, ayant traversé quelques millions de milliards de kilomètres, viendra frapper ma rétine, parfaitement côte à côte, avec d'autres photons, dont certains se perdront pour n'être vus de personne, pas même d'un chat ou d'un pigeon. Je me souviens que sur toute une vie de butinage, 2 mois, et 600 kilomètres parcourus pour le bien commun de sa ruche, 500 000 de fleurs butinées, une abeille produit une cuillère à café de miel. Je me souviens de Séverine, de Diane Arbus, d'Adrienne Bolland, d'Ella Fitzgerald, de Delphine Seyrig, de Marie de Miribel, de Marguerite Long. Le tramway a beau passer le long des boulevards des Maréchaux, il a su se renouveler et éviter les litanies de Ney, Poniatowski, Murat, Mortier et autres. Je me souviens que Louise avait sollicité les mains calleuses de Roger, son mari, pour aménager dans son grenier 2 chambres et 1 salle de bain. Et pour les gosses, quand ils reviendront à la maison avec leurs propres enfants. 3 ans de travaux pour Roger. Et finalement, un par un, les gosses, à l'âge adulte, ont claqué la porte de la maison familiale pour n'y jamais revenir. À cause des mains calleuses de Roger, mais aussi de ses mains baladeuses. Je me souviens qu'avant de manger son yaourt à la cantine, José profitait bien du reflet concave de sa petite cuillère pour observer ses points noirs.
Mourir pour Mbappé, perspective alléchante, pour qui n'est pas né là et qui est né palé. Main d'œuvre à bon marché, entassée dans des tentes, vous avez tout construit avant de nous quitter. Oui, vous avez trimé par une chaleur ardente. Pour vous, y a pas eu de clim pour plaire à la FIFA. Soyez content d'avoir préservé le climat. Mourir pour Mbappé, d'accord et par 50, d'accord et par 50. Sans doute l'ignorez-vous, mais c'est un grand honneur d'aller vers l'autre monde, une truelle à la main. Au moment du trépas, surtout n'ayez pas peur, Vishnu au Nirvana vous accueillera très bien. Et nous, pour des raisons religieuses évidentes, l'alcool étant banni au sein de nos frontières, on n'a malheureusement pas pu vous mettre en bière. Mourir pour Mbappé, d'accord et par 50, d'accord et par 50. Toutes les plus grandes équipes viennent jouer à la baballe. Ah, c'est quand même autre chose que Châteauroux-Nancy. Vous pouvez être fier dans votre pierre tombale d'avoir rendu heureux Neymar, Giroud, Messi. Et nous, comme notre équipe de foot est décevante, heureusement qu'on a pu organiser le tournoi. C'est par ce seul moyen que l'on se qualifie. Mourir pour Mbappé, d'accord et par 50, d'accord et par 50. À tous les rabat-joie, adeptes de polémique, qui depuis quelques mois ruaient dans les brancards, patientez donc un peu avant d'être critique. On fera le bilan, c'est promis, mais plus tard. Ne précipitons rien et soyons dans l'attente. Oui, comme on dit chez nous, on n'est pas à la minute. Il ne faut pas mettre la charia avant les buts. Mourir pour Mbappé, d'accord et par 50, d'accord et par 50.
Évidemment, fallait pas le rater, c'est sorti cette semaine, c'est le nouveau titre des Goguettes, en trio mais à quatre, et là seulement à deux, Mourir pour Mbappé, pour évoquer la Coupe du Monde au Qatar, avec, comme à l'accoutumée, quelques petites images bien choisies. Quand je parle des petites images bien choisies, c'est non seulement sur le clip sur lequel on les voit tous les deux, mais également dans la façon d'agencer et de nous raconter des petite blague peut-être, mais sur un sujet relativement sérieux ici encore. Radio Libertaire 89,4 MHz. Eh bien, j'aperçois dans le studio quand même des piliers habituels de l'émission. Un, deux, trois piliers, la table ne tiendra pas droit, mais on en attend d'autres pour la redresser.
Bon, tu veux pas des jeux... Je me souviens.
C'est déjà fait.
Ah, oh, c'est pour ça. Excusez-nous, on est arrivé un peu en retard. Voilà. Donc, en attendant, Laurent Carébian et son invité, Andrea Marsili, on va commencer les émissions. Donc, c'est Ariel, je crois bien, parce qu'il y a toujours Yves Lecard, les quinze de soleil, des poésies qui font soit frémir, rigoler, ou vraiment avec beaucoup d'intensité. Michel, tu as...
C'est un livre qui est un recueil de contes et mythes wolof. Ça a été traduit en français par Liliane Kestelout, Chérif Bodji. Et c'est aux nouvelles éditions africaines. Bon, je ne sais pas quand ça date exactement. Enfin voilà, je vous en lirai un tout à l'heure.
Très bien. Elsa.
Alors, je reviens donc avec les poèmes de Papy Jean. Les poèmes à dire sélectionnés par Daniel Gela. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de lire du Sergueï Essénine, parce que les poèmes qui vont suivre sont particulièrement longs. Alors, peut-être qu'il n'y aura pas d'Essénine. Ou peut-être que si, je ne sais pas. C'est justement le suspense de l'émission qui le dira.
Allez, qui entame ?
Je vais commencer par Yves Lecard. Brave soldat, Brave soldat revient de guerre, tout mou, tout mou. Brave soldat revient de guerre, tout mou, tout mou. Bien mal en point, bien mal partout. Brave soldat, bien, brave soldat revient de guerre, c'est fou. Brave soldat, qu'allais-tu faire, mon gars, dans cet enfer, cette galère là-bas? Tu es parti, tu es tes frères, tu ne dois pas en être fier, en tout cas. Pauvre soldat sur la poitrine arbore, pauvre soldat sur la poitrine arbore, une médaille tricolore, sa belle jambe le taquine encore. Car le soldat a deux béquilles, se traîne. Car le soldat sur deux béquilles se traîne. Et encore, il a de la veine. Tant d'autres laissent leur famille en peine. D'autres soldats ne s'en reviennent jamais. Trop de soldats ne s'en reviennent jamais. Au nom d'un drapeau bien abstrait, il serait temps que l'on apprenne la paix. Quand les soldats cesseront d'être des héros, quand les soldats qui ne sont que des numéros ne suivront plus leurs généraux, la liberté pourra enfin renaître. Quand tous les hommes sans fusil et sans drapeau, quand tous les hommes sans fusil et sans drapeau ne formeront plus de troupeaux, nous aurons un monde choisi, plus beau. Pauvre Fada, finis la guerre, n'y va pas. Pauvre Fada, arrête de marcher au pas, tu as mieux à faire ici-bas que faire joujou aux petits soldats. Plus de combat et plus de guerre, jamais plus. Plus de combat et plus de guerre, jamais plus. Ce monde-là est révolu. La paix, la poésie s'appelle salut.
De ces guerres lointaines, quand le soldat revint, se mit à la fontaine, au bout de mon jardin. Si ma mémoire est bonne, je ne suis sûr de rien. C'était un jour d'automne, hier ou bien demain. Tous les gens du village s'approchèrent de lui. Le patron du garage lui dit, tu as vieilli. Devant sa pauvre mine et son habit râpé, les gamins, les gamines ont couru se cacher. Il dit, une lumière a disparu en moi. Ce que l'on m'a fait faire, je n'en parlerai pas. Je vous vois sur la place comme des étrangers. Est-ce le temps qui passe ou moi qui ai changé? Vous dites que ma mère, mais je n'en ai rien su. J'irai au cimetière pour un dernier salut. Ainsi s'écrit l'histoire, on se bat tant et plus, on fait de la victoire et l'on a tout perdu. Elle habite à la ville, celle qui m'avait dit, tu peux partir tranquille, n'en parlons plus, tant pis. J'en ai connu bien d'autres et j'en retrouverai, qui vous oublie quand votre argent s'est envolé. Elle est grande la terre, tous ceux que j'ai servis, qui me flattaient naguère, m'ont oublié aussi. Il me reste la route, plus rien à faire par là, mais il faut qu'on m'écoute une dernière fois. Alors, la plus petite, en pleurant, a donné un baiser vite, vite, au soldat qui parlait. D'une pauvre voix qui tremble, voici ce que je sais. Les guerres se ressemblent, ne vous battez jamais. Les guerres se ressemblent, ne vous battez jamais. Si ma mémoire est bonne, il reprit son chemin. C'était un jour d'automne, hier ou bien demain. C'était un jour d'automne, hier ou bien demain.
Radio Libertaire 89,4 MHz. Évidemment, j'ai profité de ce texte antimilitariste d'Yves Lecard offert par Ariel pour continuer notre hommage semaine après semaine à Michel Buller dit Bubu, avec cette chanson d'un des premiers albums de Buller paru chez L'Escargot, si je me souviens bien, avec effectivement une tonalité qui rappelle toute une époque et qui rappelle un peu aussi François Béranger. Radio Libertaire, le studio continue à se remplir. Dans quelques minutes, nous aurons une invitée pour parler de tango, mais dans l'immédiat...
Michel ? Alors, je peux vous lire un petit conte. Wolof, donc... alors, ici, c'est un livre qui... où on peut le lire en Wolof, mais malheureusement, je n'y arriverai pas. Ce serait mon épouse qui aurait pu le faire, mais elle n'est pas là. Alors, là, je trouve le compte en question. Alors, c'est pas là. Hop. Ça commence là. Voilà. Pourquoi certaines filles de Ngor restent sans mari? Voilà, c'est un conte. Alors, si vous avez l'habitude d'observer, vous verrez que quelquefois, il y a des femmes qui restent jeunes filles jusqu'à ce qu'elles vieillissent et meurent sans avoir jamais été mariées. Cela à cause, ici, à Ngor même, il s'était passé une chose dans le temps qui clarifie ce problème-là. Les vieux racontent cela jusqu'à ce jour et nous sommes... jusqu'au jour où nous sommes et personne ne peut le démentir. Oui. On dit alors qu'il y avait un pêcheur qui habitait la plage. Il allait pêcher et revenait jusqu'à ce qu'il ait une femme. Il vécut avec elle pendant environ 10 ans, sans jamais avoir eu d'enfant. La chose lui faisait très mal, parce que ceux avec qui il habitait n'accordaient aucune considération à sa parole. Il avait l'habitude, quand il allait pêcher, d'accoster l'île vers Yur-Yur avec sa pirogue, et il se reposait un peu pour se lever ensuite. Il mettait sa pirogue en mer. Si la prise n'était pas bonne, il repêchait. Si la pêche était bonne, il rejoignait sa femme. Quelquefois, il revenait dans la nuit, et seule sa femme l'aidait à tirer la pirogue. Un jour qu'il avait accosté l'île pour se reposer, il s'endormit. Dans son sommeil, il rêvait, et dans son rêve, il ne se plaignait que de sa douleur, celle de n'avoir pas d'enfant. Il se trouve que, pendant son sommeil et son rêve, un vieil homme était venu et l'écoutait. Le vieil homme avait une longue barbe très blanche et le cheveu très blanc. Il le réveilla. Le pêcheur se leva. Après les salutations, le vieil homme lui apprit que c'était lui, Portengin. Il ajouta « Je suis au courant de ta douleur, je connais ta préoccupation et je veux aussi t'aider car j'en ai la possibilité. » Bortengen dit encore « Je ferai que tu aies un enfant, ce sera une fille. Quand elle viendra au monde, tu lui donneras le nom de Mbix, mais cela, je le ferai à condition que tu acceptes ce que je vais te dire. » Le pêcheur lui dit « Parle et je suivrai tout ce que tu dis. » Bortengren dit une seule chose. Quand Bix sera grande, elle ne devra pas se marier, elle ne devra pas avoir d'autre mari que moi. Et je ne la prendrai pas pour qu'elle me rejoigne. Elle restera entre vos mains, toi et ta femme, mais elle ne devra pas avoir un autre fiancé. Elle ne devra pas avoir un mari, si ce n'est moi. Le pêcheur accepta. Ne te fais pas de soucis pour cela. C'est comme tu le dis que ça se passera. Bortengin disparut instantanément. Le pêcheur, à son tour, mit sa pirogue en mer. Un an après, la femme du pêcheur eut un enfant. C'était une fille. Le pêcheur lui donna le nom de Mbix. Les années venaient et passaient, et Mbix grandissait. Les années venaient et passaient, Mbix devenait plus grande. Les années venaient et passaient, Mbix devint une jeune fille en âge de prendre un mari. Elle était d'une beauté que personne n'avait jamais vue, et les gens pensaient même que dans le monde entier, il n'existait pas de femme égalant Mbix en beauté. Ce qu'elle aimait le plus, c'était de s'asseoir sur les rochers au bord de la mer et de faire face à l'île. Les hommes du village n'osaient pas la courtiser à cause de sa beauté extraordinaire. Un jour, un riche commerçant qui habitait le village de l'autre côté vint courtiser Mbix. À chaque fois qu'il venait, il laissait entre les mains du père et de la mère de Mbix beaucoup d'argent. À chaque fois, il faisait ainsi.
Un jour, le père de Mbix décida de donner en mariage sa fille au commerçant. À cause de la richesse, le pêcheur oublia sa parole. Ainsi, un vendredi, le mariage fut fait. Mais dans la même journée, avant le coucher du soleil, Mbix tomba malade. La maladie, très rapidement, la pénétra et l'alita. La maladie devint grave, très grave, si grave que l'on pensait même que Mbix ne passerait pas la nuit. Le père eut extrêmement peur. Son esprit revint sur le pacte qu'il avait noué avec Bortengin. Immédiatement, il appela les gens pour que le mariage fût défait. Le mariage fut alors rompu. Mbix commença à se sentir un peu mieux, mais la maladie ne l'avait pas encore quitté complètement. Dans la nuit, le père de Mbix mit sa pirogue en mer, ce qu'il ne faisait pas souvent. Les gens furent un peu désemparés et ils parlèrent de l'accompagner. Il refusa. Après avoir longtemps pagayé, il arriva à l'île, fatigué. Il s'étendit sous l'arbre contre lequel il se mettait d'habitude et s'endormit. Ainsi, Bortengin le réveilla, lui rappela qui il était et ajouta « Tu as accepté de toi-même et tu as vu toi-même, tu as refusé de toi-même et tu as vu de toi-même. » Bortengin lui dit « Si tu veux que Mbix se lève, avant de mettre pied à terre, remplis ton basus, c'est-à-dire ta cruche, d'eau de mer que tu verseras sur elle dès ton arrivée. Ainsi elle se lèvera. » Le père de Mbix répondit « En effet, comme tu as parlé, ainsi je ferai. » Bortengin lui redit « Et n'oublie jamais que Mbix ne doit avoir d'autres fiancés que moi. Elle ne doit pas avoir d'autres maris que moi. » Bortengin n'attendit même pas que le pêcheur lui réponde pour disparaître. Le pêcheur mit alors sa pirogue en mer, il pagaya, et lorsqu'il fut en vue de la plage, il remplit donc la cruche d'eau de mer, puis, comme on lui avait dit, et après avoir tiré la pirogue, il prit la cruche et vint trouver Mbix, là où elle était couchée. Il versa sur elle l'eau de mer. Mbix se leva brusquement, comme si elle n'avait jamais rien eu. La fièvre disparut totalement. Les gens qui assistaient Mbix furent stupéfaits. Ils reconnurent en vérité que Mbix n'était pas une simple créature. Le père, depuis, refusa d'entendre parler des problèmes de mariage concernant sa fille. Mbix, également, semblait totalement ignorer ces choses. Elle semblait comme possédée. Chaque soir, elle se faisait belle et se dirigeait vers les rochers. Elle marchait pieds nus le long de la plage. Quand elle arrivait au rocher, elle s'asseyait seule, tournée vers la mer et faisant face à l'île. Elle restait là ainsi des heures, et quelquefois, c'est la nuit qui la faisait fuir. Les gens disaient que Bortengin était son amant. Mbix continua ainsi jusqu'à ce que son père rejoigna Allah. Elle continua ainsi jusqu'à ce que sa mère aille rejoindre son père. Elle vieillit et mourut sans jamais s'être mariée.
Merci.
Chemin. Je dis des chansons en parlant. Donc, ce que je vais lire, c'est une chanson. Après, à vous de deviner quel en est l'auteur. Sous vos applaudissements. Des cinglés qui ont l'étincelle pour allumer les abat-jour, des mecs qui t'ouvrent un coin de ciel, on n'en rencontre pas tous les jours. C'était un monstre catholique, un seigneur du petit écran, insatisfait, psychotémique, un cabotin vivant, vraiment, sous vos applaudissements, sous vos applaudissements. Moi, je l'ai connu, roi soleil, lucide sur ses courtisans, quand il nous rejouait à merveille, « Je vais mourir, soyez contents !» Un ego plus grand que la terre, tant de blessures cachées dedans. L'humour pour ne pas se foutre en l'air, c'est vrai qu'il était attachant. Sous vos applaudissements, lui qui parlait toujours de lui, et même à la troisième personne, il pouvait te changer la vie, tiens, pour peu qu'il t'ait à la bonne. Il te promettait les étoiles et que bientôt viendrait ton temps, en soufflant si fort dans tes voiles qu'il t'aurait donné du talent. Sous vos applaudissements, il avait mis de l'insolence dans une télé ronronnant, brisant les chaînes d'une France qui se libérait en riant. Faut dire, depuis qu'il est parti, ma télé marche en noir et blanc. Tous mes dimanches sont des lundis. Et il me manque éperdument. Sous vos applaudissements. Voilà. Maintenant, à vous de deviner quel est l'auteur.
Et si vous trouvez la réponse, eh bien, vous l'envoyez à Evelyne.
Jacques Martin.
En tout cas, oui, ça me rappelle effectivement, sous vos applaudissements, depuis le théâtre qui empire. Allez, et puis juste avant, c'était La Bise à Madame, un groupe de Perpignan ou par là, interprétant Brassens, La Non Demande en Mariage. Il me semble que c'était dans la lignée de ce que Michel nous a lu. Et de toute façon, c'est toujours un plaisir d'entendre des arrangements absolument délicieux et délirants sur les chansons de Brassens. Et maintenant, Elsa, c'est à toi.
Oui. Alors... un poème court de grand-père. Poème à Lesbos. Les tresses brunes de vos caresses s'effilochent entre vos doigts réservés. Vous avez l'attitude fragile des amours secrètes et les axes de vos jambes confondues se tendent et se détendent comme le rythme de vos seins soudés. Vos haleines profondes et satinées s'allient au mariage de vos lèvres. Vos regards possédés évasent les limites de vos rêves. Fille cythéréenne, j'ai cueilli dans les jardins occultes les fleurs de vos grâces et j'en ai fabriqué le bouquet artificiel que je dépose sur vos lits stériles. Je vous aime dans le prolongement de mon éternel féminin, en chassant dans vos tabernacles voilés la semence inaccoutumée de mes gestes interdits. Désencerclés des origines, vos gorges se correspondent dans leur recherche d'unité, leur chakra sonore résonne à la contemplation du double. L'arôme de votre tiédeur se propage dans l'engourdissement de mon désir coupable, et la tiédeur de vos enlacements résorbera la nostalgie de Lesbos qui demeure enfouie dans mon souvenir. Papy Jean l'a écrit à Paris en novembre 1952. Ce poème fait partie des nombreux qui suivront, où il met en avant l'amour entre femmes.
Merci.
Je rêvais d'être un héros et voulais m'en aller faire le mirliflore, connaître la faune et la flore, faire une arche de mon bateau. Je rêvais d'être un conquérant et je voulais partir tout comme Don Quichotte, tant sur la terre que sur la flotte, par les mers et les continents. Si je voyais une guenille, j'en voulais faire un étendard, je l'ai compris beaucoup trop tard, je regardais trop ce qui brille. À tant rêver, j'ai gâché mes 20 berges, la gamberge a fait de moi un pauvre homme de plus. Même si je voulais brûler un cierge, à Saint-Antoine, au patron des perdus, je ne retrouverai pas mes 20 berges, ni les amours que je n'ai pas connus. Je ne retrouverai pas mes 20 berges, ni les amours que je n'ai pas connus. Voyez le sceptre en main, l'hermine sur le dos, en tête une couronne, des courtisans pour ma personne, se courberaient bien bas les reins. Autour du monde de mon nom, on écrirait l'histoire et devant ma puissance, trembleraient les états, je pense, que j'avais perdu la raison. Car de ces folies de jeunesse, de tous ces désirs insensés, à petit feu j'ai gaspillé mes 20 ans, toute ma richesse. Si j'ai vieilli maintenant je gamberge, mes 20 berges, avec ma vie sont à jamais perdues. Même si je priais la bonne Vierge de me donner quelques années de plus, je ne retrouverai pas mes 20 berges, ni les amours que je n'ai pas connus. Je ne retrouverai pas mes 20 berges, ni les amours que je n'ai pas connus. Même si je priais la bonne Vierge de me donner quelques années de plus, je ne retrouverai pas mes 20 berges, ni les amours que je n'ai pas connus. Je ne retrouverai pas mes 20 berges, ni les amours que je n'ai pas connus. Je ne retrouverai pas mes 20 berges, ni les amours que je n'ai pas connus.
Maintenant, un autre petit poème pour illustrer le thème tango. Un poème de Robert Desnos dans un cocktail couleur tango. Dans un cocktail couleur tango, je buvais les yeux de ma belle. L'un est vert, l'autre Mirabelle. Je buvais les yeux de Margot. Margot, mon rêve au pas d'un tango, a piétiné l'image frêle, ses yeux aux couleurs rebelles, troublés par mon chalumeau. Le divin cocktail de mes larmes, par un beau soir à Monaco. Ô fée méditerranéenne, je l'ai bu au son d'un tango. De Robert Desnos.
Eh bien voilà, et ça c'est parfaitement logique, puisque dans quelques instants on va enchaîner sur le deuxième morceau de notre émission d'aujourd'hui. Notre magazine aujourd'hui se lit dans les deux sens, vous savez, vous prenez le truc dans un sens, hop, et après, à un moment, vous retournez, et vous avez, j'espère que tout va passer dans le sens normal quand même. Laurent, à toi.
Merci, merci beaucoup Nicolas de m'accueillir, merci Ariel, merci Elsa et Michel Tourte. Voilà, donc c'est sympa, on a une belle séquence de tango, un tango très particulier qui nous attend, c'est pas la Vieja Guarda, c'est tout à fait autre chose. Et nous avons une invitée qui s'appelle Andrea Marsili. Bonjour Andrea Marsili.
Bonjour.
Et puis nous avons une invitée silencieuse qui est ton attachée de presse, Marie-Claude Castondet, que je remercie pour son travail excellentissime. Voilà, je le dis à l'antenne, je la remercie beaucoup. Et grâce d'ailleurs à Marie-Claude, nous aurons un autre sujet bientôt dans deux mois. Avec un autre album, nous referons une séquence tango bientôt. Andrea Marsili, compositrice, déjà.
Compositrice, pianiste, directrice de l'ensemble Fleur Noire.
Alors, Fleur Noire, c'est un ensemble. Alors, l'une des questions que je voulais te poser, est-ce qu'il y a des femmes qui jouent du tango en Argentine en ce moment ?
Il y en a pas beaucoup.
Combien sur 10 millions ou 15 millions ou 30 millions, combien? Quel ratio?
Bah, en tout cas, je n'ai pas l'info pour ça, mais je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de compositrices femmes. Du tango contemporain, j'en connais deux, et moi et une autre. Et par contre, il y a des femmes qui font des arrangements d'orchestration, qui dirigent d'orchestres de tango. Et notamment, il y a beaucoup de femmes bandoneonistes.
Alors ça, c'est intéressant parce que nous avons dans ce disque qui vient de sortir, un disque qui s'appelle Tango en Aleph, Fleur Noire et Invité. Donc Tango en Aleph, c'est le titre de l'album. Et les artistes, c'est Fleur Noire et des invités. Et quels invités? Des pointures.
Oui, et des artistes avec... Il y en a deux, que Aureliano Marin et Minino Garay. Et c'est la première fois qu'on travaille avec eux. Et avec Thomas Gouich, c'est déjà notre deuxième partenariat. Et par contre, avec le Fleur Noire, ça fait 20 ans qu'on joue ensemble. On est à notre quatrième album. Et sur la pancordie, on est un orchestre typique des femmes. Typique, parce que à l'époque, aux années 40, aux années d'or du tango en Argentine, et il a fallu trouver un nom pour différencier les orchestres qui faisaient que du tango. Donc ces orchestres-là s'appelaient des orchestres typiques, pour les différencier des autres orchestres qui jouaient un peu tout, un blues, un foxtrot, un tango, une valse. Donc du coup, le mot typique, par contre, il est resté pour toujours. Et par contre, comme je disais, pour les années 40-50, il y a eu une effervescence des orchestres de femmes, d'orchestres typiques des femmes. Mais c'était plutôt des ensembles avec un côté commercial. Mais bon, nous avons voulu prendre ces concepts-là et créer cet orchestre. Mais au lieu de jouer des classiques, qui fassent des créations, des nouvelles propositions.
Alors, des nouvelles propositions, il y en a des très belles. C'est un disque qui est paru sur un label courageux. hein, Parati. On va citer ce label pour que nos auditeurs puissent aller un peu se promener dans la discographie, dans ce qui paraît sur ce label. Il y a du Jean-Sébastien Bach aussi, il y a du classique, il y a du tango. Donc un album donc, qui s'appelle Tango en Aleph, 29 minutes 21. Alors quand je l'ai écouté, j'ai eu l'impression d'écouter pendant une heure, c'est-à-dire d'être nourri complètement. C'est une sensation dont je voulais faire part à nos auditeurs et à nos auditrices pour qu'ils s'intéressent à cet album qui est extrêmement original. Il y a dans cet album des participants, donc tu as cité tout à l'heure Thomas Kubitsch, qui est dans le milieu de tango, c'est une star hein, quand même, oui. Hein, on peut le dire, c'est une grande pointure. Il avait d'ailleurs ce fameux duo Osvaldo Calo, Thomas Kubitsch, que je connais, que j'ai vu sur scène dans les années 82, voilà. Minuno Garay, que tu as cité, le récitant Daniel Melingo, qui était certainement dans ce Gotan Project, c'est ça ? Voilà, c'était lui ?
Il n'était pas Gotan, non.
Où est-ce qu'il était, lui, de Melingo ?
Bah, lui, il est...
Qu'est-ce qu'il avait
fait ? À la base, il est une star de rock.
Rock.
Et quand j'étais jeune, il était...
Tu l'as connu chevelu, barbu,
Moi, quand j'étais jeune, je n'écoutais pas du rock. Moi, j'étais vraiment musique classique, donc je ne saurais pas vous dire, mais il est connu en tant que star de rock.
Star
il y a
rock.
Une vingtaine d'années, il a commencé à faire une carrière de soliste dans les tangos. Et pour le dernier album que nous avons sorti il y a 4 ans, et notre album et le sien ont été sélectionnés par les Saint Rock, par le magazine, parmi les 10 disques à écouter d'urgence d'Amérique latine. Et du coup, quand j'ai vu ça, je me dis, ah tiens, ça sera bien qu'on fasse quelque chose ensemble. Donc je l'ai contacté et lui, il était partant. Et du coup, je lui ai demandé qu'il enregistre sa voix. Et après, moi, je l'ai traité et j'ai fait une espèce de son de synthèse aussi. J'ai fait de l'électroacoustique et j'ai retravaillé sa voix et certains sons aussi du bandoneon. Et du coup, il fait partie des titres qui sont récités. Et bon, et les trois titres un peu centrales de l'album, parce que Melingo, il chante, il récite justement le texte qui a été dédié à Santiago Maldonado, un disparu politique et argentin. Et du coup, j'ai traité la voix de Melingo et en la spatialisant et en essayant de retrouver les sonorités de la forêt où Santiago il avait été disparu. Et donc du coup, le fait de travailler, de traiter la voix, ça m'a permis de faire d'autres recherches, des timbres et aller plus loin aussi dans mes possibilités instrumentales.
Alors il y a aussi un chanteur particulièrement attachant, il s'appelle Aureliano Marin. D'où vient-il ? Est-ce qu'il vit en France ?
Non, il vit en Suisse. Alors, pour lui, j'ai une autre petite histoire. C'est toujours le même cas, mais il y a eu un moment en particulier qu'il y avait beaucoup de fémicides en Argentine et aussi en France. Et alors là, je me suis dit, non, ça, c'est pas possible. Il faut que moi, en tant que musicienne, que compositrice, que moi aussi, j'ai quelque chose à dire là-dessus. Donc, et je parle avec mon père, que c'est lui qui écrit les paroles de mes morceaux. Et du coup, on commence à travailler autour de ces morceaux-là, de la composition. Et on termine le texte, moi je termine la partie instrumentale et tout, et par contre la partie chantée, ça venait pas, donc il était un peu endormi le morceau, et un jour je tombe sur la voix d'Aureliano Marin sur YouTube, parce que je me suis mise à chercher des chanteurs du tango, et j'entends sa voix, et tout de suite... J'ai eu la partie chantée de la musique et le poème du Marteau pour les sorcières. je l'ai entendu tout de suite dans ma tête, je l'ai écrit et je l'ai contacté. Je lui ai dit, écoute, je veux que ça soit toi qui chante cette chanson, est-ce que t'es partant? Et du coup, ça tombait bien parce qu'il habitait en Suisse, il venait de déménager et du coup, on a commencé à travailler ensemble.
Une voix très, très originale. On va l'écouter tout à l'heure, mais là, j'ai choisi en ouverture et j'ai fait un petit signe à Nicolas en lui indiquant le numéro 6, un instrumental. Mais avant, quand même, un petit regret personnel. Moi, et je pense des auditeurs, auraient peut-être voulu qu'il y ait un ou deux instrumentaux en plus. Hein, c'était voulu, bien sûr, mais
c'était voulu
ça
parce
sonne,
que...
ça sonne bien aussi. Oui,
oui. Ouais. Merci, mais en fait, c'était voulu parce que l'album précédent, c'était l'inverse. C'était instrumental, très instrumental. Et du coup, il y a eu un moment qui nous manquait. Ça nous a manqué en tant qu'orchestre aussi, pas seulement moi en tant que compositrice. Et puis sur scène, ça nous manquait d'avoir de la voix. Et en plus, pour cet album-là, qu'il est plus engagé socialement, politiquement, et on avait soin. Les porte-paroles aussi.
Oui, il y a des paroles très fortes. On va en parler tout de suite après avoir écouté un instrumental qui s'appelle, alors je vais essayer de prononcer, Moutongos de Panurgo, d'après les moutons de Panurge de Frédéric Rzewski. On en parlera tout à l'heure de ces auteurs, de cet auteur, et tu nous en diras quelques mots. Pour l'instant, eh bien voilà, on écoute cet instrumental avec une intro de Thomas Gubitsch, on va le reconnaître, n'est-ce pas, Thomas?
Oui, voilà.
Et puis des cordes, et puis le bandoneon, et on va en reparler de tous ces instrumentistes sur ce disque qui est absolument une très grande réussite. Thank you. C'est un extrait de l'album Tango en Aleph, paru récemment chez Parati, un label très courageux, intéressant, qui a le sens de l'aventure, et bien sûr les artistes, les participants, il s'appelle Fleur Noire, avec des invités. Alors des invités, on a entendu tout de suite, enfin au début de ce morceau, une intro, j'ai parlé hors micro, avec notre invité Andrea Marsili de Thomas Gubitsch, on en a déjà parlé parce que c'est ce qu'on appelle une grande pointure. Et la composition, eh bien, c'est une composition de Andrea Marsili, c'est bien ça. Alors après, bien sûr, une formation classique, très brute, très basique, bien sûr, l'essentiel. Tu t'es orienté vers la création. C'est donc une sorte de continuité par rapport à ton savoir, à tes expériences, à tes acquis. Il fallait que tu ailles à la découverte aussi.
Un peu, oui. En fait, je suis... À la base, j'étais pianiste. Je voulais être pianiste classique et du tango. Donc, je fais ces études parallèles au conservatoire. Et puis, j'étudiais le tango et parallèlement, et j'ai dirigé des ensembles de tango traditionnel, des piazzolla, en étant adolescente, j'aimais ça. Mais après, je suis partie aux États-Unis pour, dans ma tête, j'allais être pianiste de musique des chambres, musique contemporaine, mais plutôt. Mais j'ai continué à avoir mes groupes de tango jusqu'à un jour que j'ai entendu à Gerardo Gandini. C'est un compositeur de musique contemporaine. Il était pianiste de piazzolla. Je l'ai entendu en live qu'il avait fait un disque post-tangos. Il improvisait avec son langage à lui, donc un peu du jazz, de la musique contemporaine et du tango. C'était un vrai. Et ça m'a marqué. J'avais 18 ans et je me suis dit, ah, je vais faire ça, mais en groupe. Et donc j'ai commencé mon chemin. Et en étant aux États-Unis, j'ai pris des cours de composition. Après, je suis partie aux États-Unis, en Allemagne. J'ai étudié à la Hochschule de la musique contemporaine. Et puis, j'ai appris qu'ici à Paris, il y avait Gubitsch, il y avait Gustavo Beitelmann, Juan José Mussolini. Du coup, je me suis dit, je dois être à Paris. Donc, je suis venue ici. Et en arrivant là, très vite. Et j'ai connu des filles qui faisaient du tango et qui avaient marre de commentaires machistes du milieu, style « Ah, tu joues bien, on dirait un mec !» Donc, des phrases comme ça, il y a eu un moment où on s'était dit « Bon, pourquoi pas pourquoi, on peut très bien faire un orchestre de femmes, pourquoi pas ?» Donc, on s'est lancé dans cette aventure. Et moi, je me suis dit, oui, d'accord, ok, pourquoi pas, mais moi, j'ai envie de faire quand même des créations. Donc, j'ai commencé à demander des compositeurs qui m'envoient des partitions. Donc, à chaque fois, ils faisaient des propositions. Donc, à Buenos Aires, à Rosario, ici en France. Donc, à chaque fois, je disais, ah oui, non, mais c'est super, mais moi, je veux qu'il y ait telle chose. Il y a eu un moment, des compositeurs m'ont dit, mais si c'est aussi clair dans ta tête, pourquoi c'est pas toi qui crie? Et moi, j'ai dit, ah, ok, d'accord. Et moi, j'aime bien faire les choses. Donc, du coup, j'ai fait mes études au conservatoire de compositrice. Et en effet, j'ai pu très vite. Il fallait juste donner un cadre, mais les idées, c'était là. Et du coup, au bout de ma première partition, je les donne aux fleurs. Elle le joue et dit c'est chouette, c'est super, mais c'est pas du tango, ça. Comment c'est pas possible, hein. Je fais du tango depuis, j'entends du tango depuis que je suis un enfant, c'est pas possible, comment ça c'est pas du tango? Non, on aime bien, mais c'est pas du tango. Et alors là, je me suis lancée dans une autre recherche, c'était la recherche de qu'est-ce que c'est le tango. Donc j'ai fait un doctorat et pour décoder les styles, le chambre. Et du coup, j'ai écrit une thèse autour du langage musical du tango et qu'est-ce que c'était le tango et jusqu'où on pouvait aller tout en gardant les racines, tout en gardant les ADN. Et finalement, je voulais trouver les codes du tango et c'est ce que je fais. Et voilà, et à partir, une fois que j'ai fait ma recherche, à la fois, je me suis dit, ah oui, super, c'est bien de le savoir, mais là, j'ai envie de composer, je vais faire ce que j'ai envie. Et là, je ne me pose plus la question si c'est du tango ou pas. Je sais plus construire ma voix en fonction de mes racines et de mes expériences. Et, mais aujourd'hui, voilà, c'est ma musique. Je n'ai pas d'étiquette.
J'ai écrit, là, en écoutant cet album, voilà, y a des mots qui me sont venus. Et... D'abord, le mot « chaleur ». Parce que c'est une musique de chaleur aussi, ça n'est pas toujours le climat de certaines musiques contemporaines, justement, qui ont du mal parfois à s'imposer. Le mot « inventivité », bien sûr, parce que voilà, c'est assez éclatant. Et puis, voilà, j'ai écrit que tout ce travail a respecté les codes du tango, mais a élargi le territoire des possibles. Est-ce que ça te... convient?
Bah, c'est ce que j'essaie de faire.
Bon, alors voilà.
Alors, merci, bon. Si vous avez compris mon schéma.
Un schéma. Alors, de ce schéma, on va écouter d'autres extraits. Et donc là, je fais signe à notre Nicolas, à notre grand timonier. Voilà. Oui, tous les jours, on lit le livre que nous a remis notre grand timonier. D'ailleurs... C'est pour le débrider que je fais cette petite, cette petite assertion. On va écouter le titre numéro 1. Alors, ça m'a beaucoup intéressé parce qu'il y a, et ça va beaucoup intéresser les auditeurs de cet album, qui est vraiment, on peut dire, oui, hors du commun. Il n'y a pas beaucoup d'expériences comme ça, ni en France d'ailleurs, je pense, ni même en Europe. C'est quand même un travail tout à fait un peu... aux extrêmes de la créativité, tout en restant, comme tu le disais, dans l'ADN du tango. On va écouter Aureliano Marin. Moi, sa voix m'a beaucoup séduit. Et en plus, il a à la fois le talent d'être un chanteur et aussi de dire un texte. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il chante et par moments, sur certains passages, il dit le texte. Ça donne une respiration qui est extrêmement originale. Et le titre, je vais essayer de le prononcer à l'argentine, « Martillo para las brujas ». Est-ce que ça va?
Oui, ça
bon,
va.
Bon, ça y est, j'ai déjà une étoile presque tanguera. On écoute ce chant, marteau pour les sorcières, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Voilà, et on en parle après avec notre invité, dont je répète le nom, c'est Andrea Marsili, M-A-R-S-I-L-I, pour que vous alliez chercher sur Internet et que vous alliez découvrir une artiste assez peu commune.
Maleus maleficaro, perpetua casa de brujas. Maleus maleficaro, maléfica ley de los hombres. El inquisidor impone relatos que nunca fueron. Cacería que se alimenta con santa paciencia y muerte. Pretexto, martillo para las brujas. Texto, relato, pretexto, martillazo al diferente. Obreras de New York, Juana de Arco, mujeres de Salem, hermanas Mirabal, Hollande de Gouge, Milagro Sala. Sublime la sumisión, la obediencia, la obsecuencia. Bendicen la humillación, nos quieren tristes, vencidas. Os verdad la mentira, mentira arma y bandera. Pretexto de odio, bronca, hacha y relato. Textos que encienden llamas, llamas que avivan fuegos. Piras de saña, infierno de los infiernos. Días negros, negra noche, oscura sombra del hombre.
días negros, negra noche, tormento de los tormentos, en el nombre del hombre sin nombre, martillo de la vergüenza, en el nombre del hombre sin nombre, martillo eterno para brujar. Maleficarum, cruzada, nada sagrada, odio, relato y fuego, llama endiablada, martillo que golpe a golpe impone antojos, con paciencia domestica, con paciencia fosiliza. Maléfica ley del hombre, vergüenza de los martirios, maléfica ley del hombre, martillo para los pueblos, días negros, negra noche, oscura sombra del hombre, días negros, negra noche, martillo eterno para brujar. Miles de verdades asesinadas, violaciones, fuego que apaga vidas y vive otro fuego, fuego que enciende vidas. Caquiongoy, pan, mujeres y rosas. Ni una más, ni una menos, subliman la obediencia, ni una más, ni una menos, subliman la obsecuencia, días negros, negra noche, oscura sombra del hombre, días negros, negra noche, martillo para los pueblos, ni una más, ni una menos, maléfica ley del hombre, ni una más, ni una menos, no más martillo para brujas.
Antenne, je suis en train de, voilà, de faire des signes, et puis Andrea, nous sommes à l'antenne en direct, voilà, et puis eh bien, Nicolas nous a fait signe très gentiment, parce que c'est vrai que quand un morceau fait quelques minutes, qu'est-ce qu'on fait? Et vous le savez, chers auditeurs, chères auditrices de Radio Libertaire, eh bien nous papotons, bien sûr, nous refaisons le monde en trois dimensions. Alors on vient d'entendre ce fameux Martillo para las Brujas, une composition d'Andrea Marsili, notre invité en deuxième partie de Dessous de Scène, aujourd'hui, ce 10 décembre 2022, avec texte et chant par Aureliano Marin, et donc ce Martillo para las Brujas, c'est vraiment un texte. Je trouve que dans ces textes-là, il y a une partie, tiens, le mot me vient à l'instant, un peu surréaliste, mais ancré dans la réalité.
Oui, aussi, c'était un peu le but. C'est en fait, Marteau pour les sorcières, c'est un livre qui a été écrit l'édat médiéval, pendant les croisières, les croisades. Et en fait, c'était le livre qui utilisait pour repérer les sorcières. Et une fois qu'il les repérait, bah, ces livres-là expliquaient comment on pouvait les torturer et comment on pouvait faire pour que ces femmes s'arrêtent d'être sorcières. Et c'est devenu à l'époque un best-seller. Et c'était le livre, le manuel de l'époque. Mais on peut croire que c'est un livre qui ne sert plus à rien, mais pas du tout. En fait, c'est toutes les tortures qui ont été expliqué dans ces livres-là et ont été utilisés par en la guerre en Iran par l'armée américaine, et tout ça c'est toujours d'actualité, ces fameux livres. Du coup, quand j'ai appris là ça aussi, j'ai fait le lien et tout, je me suis dit ok, pourquoi pas nommer le tango de la même manière que ces livres-là, comme ça
Parce qu'il faut dire que bon, les textes du tango n'abordent pas souvent ces thématiques.
Non. Hein? Mais pas le vraiment. Tango d'aujourd'hui n'est plus le même que celui que j'ai connu quand j'étais adolescente. Mmh. Et à l'époque, à l'époque de mes parents, de mes grands-parents, le tango, il parlait des femmes. Oh, disons, l'homme parlait comme lui, il voyait la femme. Il était toujours la victime. C'était soit elle, qu'elle était ingrate ou qu'elle n'était pas une bonne femme pour lui, que la seule bonne femme, c'était la mère, que tous les autres, ils pouvaient vous trahir. Ou sinon, ça parlait des histoires d'amour, de choses comme ça. Après, il y a, avec l'arrivée des Piazzolla, qui n'en pouvaient plus de ces textes qui ne parlaient pas trop d'une actualité, de son actualité à lui, il a commencé à faire du tango instrumental. Jusqu'au moment qu'il est revenu un peu... quand il avait autour de 60 ans, il a commencé à écrire des chansons à nouveau, des chansons tango. Mais ma génération à moi, on a vécu une autre histoire. Pour nous, le tango, c'était une musique qui dansaient nos grands-parents. Nos parents ne le dansaient plus du tout, parce que ce n'était pas du tout à la mode. Donc, pour eux, dire que pour eux, ce n'est pas question d'écouter ou de danser les tangos. Donc, et par contre, nous, on a appris, on est arrivé au tango par Piazzolla. Donc, on a commencé à jouer des morceaux de Piazzolla au conservatoire, on nous proposait ça. Et jusqu'à la crise économique de 2001, qui a eu l'Argentine, grande crise sociale et économique. Et alors là, les musiciens argentins qui avaient entre 20 ans et 25 ans, et nous avons eu besoin de retrouver une espèce d'identité nationale, une espèce d'identité et culturelle, artistique. Et en même temps, le tango ne faisait plus partie de notre paysage sonore. Et c'est rigolo parce que moi j'étais déjà partie, j'étais déjà en France et après quand je fais mes études, j'ai vu que simultanément à Buenos Aires, à Paris et à New York, les musiciens de ma génération, on avait fait la même démarche. Créer des orchestres typiques, quand à l'époque ça, il n'y en avait plus, avec des créations et les paroles des textes, c'était contestataire.
Là, par exemple, je me pose la question pendant que je t'écoute, est-ce que, après la dictature en Argentine, est-ce que l'écriture des textes du tango a évolué ? Est-ce que
justement, c'est l'époque où il n'y a pas eu, pratiquement pas, des textes des tangos chantés.
Ça a été gelé.
Bien sûr, oui. En fait, ce qu'il faisait du tango, il faisait qu'à reprendre les anciens et les arranger.
Les anciens qui étaient politiquement neutres.
Bien sûr, oui.
Et puis, il n'y avait pas beaucoup de sous-entendus. Il y a pas mal de chansons dans plusieurs pays ou plusieurs dictatures où certaines chansons ont des sous-entendus politiques et qu'elles peuvent même être diffusées parce que personne ne comprend tout ou que les censeurs n'ont rien vu.
Non.
Ça peut arriver.
Oui.
Mais là, en Argentine, non.
Il a eu ça, mais avec le rock national.
Ah oui.
C'était les groupes... Charlie Garcia, Fito Páez, c'était les musiciens de rock qui ont pris ça relais-là, mais pas le tango.
Alors dans le titre qu'on a écouté, il y a des références à Jeanne d'Arc, Sorcière de Salem, Les Sœurs Mirabal, ça j'avoue qu'on ne connaît pas beaucoup, Olympe de Gouges bien sûr que l'on connaît très très bien chez nous, et puis il y a des mots, sublime soumission, obéissance, obséquience, bénisse l'humiliation, nous veulent triste vaincu, il y a des mots très forts, hein. Il y a des mots, marteau qui coup après coup impose ses volontés avec patience, apprivoise, avec patience, fossilise. C'est des mots particulièrement affirmés. Il y a l'affirmation, c'est très fort. Pour moi, quand je lis ce texte, ça me rappelle du Jérôme Bosch, un peu cette peinture, un peu comme ça, très, très parlante. Voilà. Donc nous avons Andrea Marsili avec nous pour cet album Tango en Aleph. Il nous reste un quart d'heure. Est-ce qu'on va pouvoir diffuser tous les titres? Pas forcément. Moi, j'ai envie on avait déjà écouté... Est-ce qu'on a écouté Melingo encore? Non,
non,
pas encore. Alors, on va écouter ce texte qui s'appelle... c'est donc le numéro 2, je le fais un petit signe à Nicolas. C'est un texte qui est un extrait du récit El Aleph. Alors là, nous n'avons pas la traduction dans le livret. Nous n'avons pas encore. Donc, tu pourras nous en parler tout à l'heure,
oui,
n'est-ce pas?
Très bien.
On va écouter donc ces extraits du récit La Lève de Borges.
Oui.
Donc c'est aussi particulièrement intéressant. Il y a ce que j'aime beaucoup aussi, un long instrumental avec les cordes. Et ensuite on a ce texte dit par Daniel Melingo.
Una copita de pseudo coñac, ¿por qué no? Y te zampusarás en el sótano. Ya sabes, el decúbito dorsal es indispensable. También lo son la oscuridad, la inmovilidad y cierta acomodación ocular. Te acostas en el piso de baldosa. Fijar los ojos en el 19º escalón de la pertinente escalera. siguiente escalera.
Qui ne connaît le Porteño quand il pique une crise de rage? Il s'emballe comme un camion, personne ne peut l'arrêter. La bronca, la rage, c'est un explosif. C'est de l'air dynamité qui le gonfle. Il doit éclater. Je ne sais pas pourquoi la rage se promène en autobus. Il n'y a pas de type plus agressif que le Porteño quand il doit voyager. Il joue toujours l'anticonformiste, avec ou sans motif. Parce que la bronca, mon ami, c'est une industrie nationale. Les lundis matins, elle est la reine du boulot, elle rend tout gris, pas de repos le dimanche, elle va en match de football, aux courses de chevaux, elle est partout. La bronca, face à un grand événement, elle s'endort, indifférente. Elle n'a aucune réaction. On ne peut pas gueuler et ronfler à la fois. Alors pourquoi on ne s'enrage pas une bonne fois pour toutes pour quelque chose de fondamental, hein? Il n'y a pas de remède. C'est plus fort que lui. La bronca est dans le Porteño comme le sel dans la bouffe. Laisse-le se dégonfler. Laisse-le finir sa pagaille. En fin de compte, il ne peut même pas tuer une mouche. C'est un sentimental.
Eh bien voilà, c'est sur la suggestion de Nicolas que on diffuse ce morceau. J'avais apporté le disque en me disant, est-ce qu'on aura le temps? Eh bien oui, c'était donc une magnifique comédienne, Eve Grilliquez, qui est l'une, pour moi c'est un peu la Laurent Herzieff au féminin, c'est-à-dire c'est ce niveau-là, une des plus grandes comédiennes qu'il y a eu en France pour dire les poèmes du monde entier, de Nazim Hikmet jusqu'au tango. Ce disque, ça s'appelle Tango pile et face, c'est un disque qui a été fait pendant le spectacle qui a eu lieu à Paris pendant un mois sur les textes du tango traduits en français. On n'avait jamais fait ça en France, avec Oscar Sisto qui chantait et qui était au piano les versions d'origine. Et donc Eve a fait faire ce travail. Et dans ce disque, on a aussi Juan Carlos Carrasco, pianiste aussi. Et c'est une magnifique somme de poèmes, et aussi des poèmes donc, dont je te parlais, Andrea, hors antenne, c'est-à-dire qu'il y a évidemment deux grandes prêtresses du tango.
Elaïa Velázquez.
Oui, avec l'accent. Walsh. Voilà, avec l'accent, ça c'est bien ça. tu peux répéter parce que c'est deux grandes.
Elaïa Velázquez et Ana María Walsh.
Voilà, il y a déjà de la musique quand tu parles, Andrea, c'est formidable, c'est formidable. Voilà, merci en tout cas Nicolas de m'avoir proposé cet extrait de ce disque, malheureusement introuvable, qui ne sera peut-être jamais réédité, mais nous l'avons ici et Ariel me l'a numérisé, me l'a copié, donc c'est magnifique. Alors, nous revenons à Andrea Marsili, nous avons 5 minutes, eh bien, on va se dire au revoir déjà, parce qu'il faut qu'on ait le temps de passer un dernier titre de cet album qui s'appelle Tango en Aleph. Tango en Aleph, là, quand on est en fin d'émission, il faut vite voir le minutage, évidemment.
Le Malambo.
Oui, Alas de Malambo, c'est parfait. C'est parfait, c'est celui en plus que je voulais diffuser parce que les paroles... Alors, les paroles de qui? Disons-le.
De mon père.
Oui, son nom.
Omar Marsili.
Ça y est, tu l'as prononcé, ça y est, tout va bien. Omar Marsili. Alors, c'est son activité principale, il est écrivain, il est poète...
Il est poète,
oui.
Et il est aussi comptable, hein. Il gagne sa vie en tant que comptable en Argentine, mais il écrit tout le temps.
Bon, bah écoute, il faut qu'il continue. On attend. Voilà, notre Nicolas revient dans la cabine et on va pouvoir écouter le numéro 5. Ça s'appelle Alas de Malambo. Alors, ça s'appelle Elle de Malambo. Et avec aussi une très belle intro au piano. C'est toi au piano,
oui,
Andrea.
C'est ça.
Hein, l'auditeur le devinera. Les percussions avec Minuno Garay, et puis les bandoneons, parce qu'il y en a trois, hein. on a même pas pu citer tout le nom, on sait en tout cas qu'il y a trois bandoneons, violon solo, violon, Piano Andrea Marsili, alto, violoncelle, contrebasse. Voilà, oui. On ne peut pas citer tout le monde, mais c'est un merveilleux ensemble de femmes qui sont vraiment au sommet de leur art. Alors, on va se dire au revoir tout de suite. Je dis au revoir à vous tous, Elsa, Ariel, et puis Michel, Andrea et Marie-Claude. Oui.
25 mars, le concert du Triton.
Alors, le concert du Triton me souffle Marie-Claude Castindé, attachée de presse. Elle a bien raison de me le rappeler. 25 mars, prenez vos agendas. Le Triton, vous connaissez, c'est à la Porte des Lilas. Allez voir, donc, Fleur Noire en concert. On annonce déjà, on réannoncera. Tango en Aleph, en concert au Triton, le
25 mars,
nous dit Marie-Claude. Bravo. Merci Nicolas. Et puis, on se dit à très très bientôt.
À bientôt,
merci.
Abrió las alas, el abismo se vio impotente. Cuando el pájaro abrió las alas, hubo un eclipse de sol. Dijiste volar quisiera, dijiste volar se puede. Sediento subo a tus ojos y navego por tus mares. Sediento subo a tus ojos al fuego de tu alegría. Sobre el abismo profundo, entre la tierra y el cielo, el pájaro en las alturas abre puertas en el aire. En la brisa de tus manos el trino se hace suspiro. La libertad abre sus alas entre el abismo y el cielo para que escriba su historia con tropezones y sueños. De lo profundo a la altura, desde lo oscuro a la luz, con su canto desafiante, el pájaro abrió las alas. Dijiste volar quisiera, dijiste volar se puede. Celoso subo a tu fuego, a navegar sin fronteras. Celoso subo a tu euforia, cuando el pájaro abrió las alas.
Et pour la première fois en 4 ans, Dessous de scène se termine avec 30 secondes d'avance. Radio Libertaire 89,4 MHz. Pour nous soutenir, passez à la librairie du Monde Libertaire, achetez votre carte d'auditeur. Et maintenant, c'est bon, le temps est parfait. Bulle noire.